De Radio Classique avec David Abiker.
Et surtout avec Luc Ferry, parce que le lundi, c'est Luc Ferry
mais
qui
oui,
est
mon
notre
ami.
Esprit libre. Bonjour Luc.
Bonjour David.
Vous vous souvenez de votre première œuvre de Pâques? J'avais pas du tout prévu de vous poser cette question.
C'est une question très bête, mais que je prends qui est fort intelligente sur le fond. Bien sûr qu'on s'en souvient tous, enfin, dans les familles catholiques, mais pas seulement catholiques. D'ailleurs, je crois que c'est un peu comme Noël, ça s'est étendu un peu à tout le monde. On adorait aller chasser les œufs. Quand on avait 5-6 ans, il n'y avait rien de plus drôle que d'aller chasser les œufs. Pourquoi les œufs, David? Pourquoi l'agneau, pourquoi les œufs?
Alors, on y reviendra tout à l'heure, parce que j'ai deux sujets d'actu d'abord.
C'est
ensuite,
très intéressant, on a trois petits animaux. Enfin, l'œuf n'est pas un animal, mais on a deux animaux qui sont typiques de Pâques. C'est l'agneau, Agnus Dei Quitolis Peccatamundi, agneau de Dieu qui enlève ou qui porte, qui prend en charge le péché du monde. Et puis, il y a le lapin et l'œuf qui sont des signes de
fertilité.
Renaissance et de fertilité. Le petit lapin.
On va parler de la dimension philosophique
oui, c'est très
et spirituelle
Pâques,
de Pâques,
ouais.
Mais il y a d'abord deux actus que je vais vous faire commenter oui. Rapidement. La première, c'est la victoire de l'opposition à Erdogan oui. À Istanbul, qui est une victoire intéressante
oui,
pour
très.
Comprendre la Turquie d'aujourd'hui, qu'on oui. A souvent tendance à assimiler à une autocratie. En fait, on se trompe.
On se trompe parce que cette victoire de la social-démocratie contre Erdogan prouve que Erdogan n'est pas Poutine, c'est pas un dictateur, c'est pas quelqu'un qui élimine l'opposition. On a souvent tendance à le voir comme une espèce de clone de Poutine. C'est pas du tout le cas. C'est un pays démocratique. Et la preuve, un dictateur ne perd aucune élection. Ça n'arrive pas. Il est élu à 90% ou son parti est élu à 90%. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. On voit que la Turquie est un pays démocratique. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que c'est la social-démocratie qui l'emporte. Et c'est le parti le moins islamiste, le moins fondamentaliste, le plus démocratique. Et donc c'est une double bonne nouvelle pour la Turquie et aussi pour nous.
Les Turcs ont reconduit donc le maire sortant, Ikrem İmamoğlu, à la mairie d'Istanbul. Et c'est une défaite d'autant plus symbolique oui. Pour Erdogan qu'il avait décidé, il avait annoncé que ce serait sa dernière campagne politique dans laquelle il peserait de tout son poids.
Voilà.
Et bah, il s'est planté.
Il s'est planté. Donc ça veut dire encore une fois que la social-démocratie progresse en Turquie, que la démocratie progresse en Turquie. C'est une très bonne nouvelle.
Une régression. Maintenant, Luc Ferry, est-ce que vous aviez pensé, et là je m'adresse à l'ancien ministre de l'Éducation oui. Nationale, aviez-vous imaginé, quand vous étiez ministre de l'Éducation Nationale, qu'un jour, il faudrait inventer une police scolaire pour protéger les enseignants? Même dans vos pires cauchemars de ministre de l'Éducation, vous n'avez pas dû y penser.
Bah surtout que c'est pas une police, c'est ça le problème, c'est que voilà, si on envoie une brigade de bisounours pour faire de l'éducation positive et du développement personnel et des cours sur la tolérance et le respect de l'autre face au fondamentalisme qui gagne du terrain, on est complètement à côté de la plaque. Voilà, c'est ça qui m'inquiète.
Force mobile scolaire.
Oui,
Force mobile scolaire,
oui,
c'est l'appellation de Madame Belloubet vendredi.
Oui, mais c'est pas des policiers, c'est pas des gendarmes, c'est des psychologues, des profs, voilà, qui vont encore une fois aller faire de l'éducation positive face à la montée du fondamentalisme, ce qui est complètement à côté de la plaque. Voilà, donc on a besoin d'une chose, d'abord que les OQTF soient appliquées, donc les obligations de quitter le territoire français soient appliquées, 95% ne sont pas appliquées.
Vous savez, quand un élève décide de terroriser une classe en venant avec oui. Un couteau à l'école, oui. Il n'est pas sous le coup d'une OQTF.
Ça n'a rien à voir, ça n'a aucun rapport avec ce que je dis, pardon. C'est simplement que le problème de l'école, il vient de l'extérieur de l'école.
Pas
il vient
toujours.
Pas de l'école.
Mais
non,
mais non,
bah,
mais non. Souvent,
mais non.
Vous avez
mais
une
non,
violence
non.
Qui peut provenir des élèves.
Mais non, David. Ne vous y trompez pas. Elle est relayée par l'extérieur.
Mmh.
La vraie violence, elle vient de l'extérieur. Elle vient de la montée du fondamentalisme en France. Et donc, évidemment que c'est relayé à l'intérieur des classes par des enfants qui eux-mêmes véhiculent l'idéologie des frères musulmans ou l'idéologie islamiste, bien sûr. Mais ça vient de l'extérieur. La puissance et la force vient de l'extérieur. Les assassinats de Samuel Paty ou de Dominique Bernard viennent de l'extérieur. Donc le problème, c'est la montée de l'islamisme en France. Et c'est pas avec des cours d'éducation positive qu'on va régler la question. Et donc le proviseur de Maurice Ravel, il fallait un, le protéger par la police, deux, le convaincre de ne pas démissionner parce que c'est une défaite pour la République, et trois, ça n'est possible que si on règle le problème d'une immigration incontrôlée, d'OQTF qui ne sont pas appliquées, et si on règle le problème de la montée du fondamentalisme. Encore une fois, il faut pas confondre la cause, c'est la montée du fondamentalisme et puis l'effet dans les classes. Mais l'effet dans les classes, il est lié à cette montée du fondamentalisme. Mais vous le savez, David, je vous apprends, je vous dis des choses que vous connaissez comme moi.
J'ai connu une époque où on entrait dans les écoles et les universités, les lycées, les collèges, quasiment comme dans un moulin.
Ben parce qu'il y avait pas. Après, on a pensé à mettre des portiques de sécurité. Bon, c'est pas jouable parce que ça ferait d'un engorgement. Et puis bon, il faut que l'école reste l'école. Mais évidemment, tout ça est lié à la montée du fondamentalisme en France. C'est la cause principale. Voilà. Et ce que disent les commissaires de police, ce que disent les policiers, c'est que, étant donné que les OQTF ne sont pas appliqués, ils n'ont pas les moyens de surveiller tout le monde. Ils n'ont pas les moyens de faire leur boulot parce qu'il y a trop de monde à surveiller. Il y a trop de problèmes. Voilà. Donc on a encore une fois, on confond aujourd'hui la cause et l'effet. C'est pas en faisant des cours d'éducation positive, de tolérance et de respect l'autre dans les classes qu'on va changer la situation. En revanche, ce qui serait utile, c'est de changer de A jusqu'à Z les cours d'instruction civique ou d'éducation civique, parce que il faudrait expliquer vraiment aux enfants ce que c'est que la laïcité. C'est pas évident du tout. Et puis, il faudrait avoir un grand cours aussi sur les réseaux sociaux. Et sur l'esprit critique. Là, il faut changer les cours d'instruction civique de A à Z. Expliquer la laïcité, il faut faire comprendre aux enfants que c'est la coexistence pacifique des religions, que c'est pas anti-musulman, c'est la coexistence. Il faut leur dire, est-ce que vous voudriez être dans un pays où il y a qu'une seule religion et les autres sont interdites? Là, les enfants disent non. Eh ben, le seul moyen d'y arriver, mes amis, c'est la laïcité, c'est la coexistence pacifique des religions. Et donc ça, il faut complètement changer nos cours d'éducation civique, mais c'est pas en envoyant des bisounours dans les classes qu'on va y arriver.
Vous parlez des religions.
Pardon d'être un peu cash, mais c'est vrai que ça devient exaspérant parce que on a affaire à des gens qui ne comprennent rien au problème de fond. C'est terrible.
Vous l'avez dit à Nicole Belloubet en tant qu'ancien ministre de l'Éducation nationale.
Non, je l'ai pas dit. Elle m'a pas demandé. C'était ma rectrice de Toulouse, Nicole Belloubet. Je la connais très bien. Mais c'est une femme extrême. Bon, elle est très intelligente. C'est une femme qui a beaucoup de qualités. Mais elle est très très très à gauche et la gauche ne comprend rien à ce qui se passe en France depuis 40 ans.
Nous passons à Pâques. Alors vous évoquiez les symboles de Pâques, l'œuf et l'agneau, symbole de l'œuf et le lapin, symbole de fertilité.
Et l'agneau.
Et puis l'agneau, c'était la douceur.
Non, c'est pas ça. L'agneau, c'est l'agneau d'Abraham.
Oui.
C'est le sacrifice.
C'est le sacrifice à Dieu.
La chanson Agnus Dei Quitolis Peccata Mundi, c'est-à-dire agneau de Dieu qui prend en charge, qui supporte, qui enlève, on traduit parfois le péché du monde. Le Christ meurt et il est ressuscité pour enlever le péché du monde, le péché des humains, et leur annoncer la bonne nouvelle. Vous savez comment on dit bonne nouvelle en grec? Euangelion. Ça donne le mot évangile. C'est le même mot. Euangelion, c'est évangile. Angelion, vous entendez, Angelion, c'est l'ange. L'ange, c'est le messager. Euangelion, c'est le bon message. Et le bon message, la bonne nouvelle, on traduit évangile, c'est la résurrection. C'est la promesse de l'immortalité. Voilà, c'est ça que symbolise Pâques. C'est pour ça que c'est la fête la plus importante pour les chrétiens. Avec Noël, Noël, c'est la naissance de Jésus. Là, c'est la résurrection. C'est encore presque plus important. Enfin, sans la naissance de Jésus, il n'y aurait pas la résurrection. Mais c'est encore plus important parce que c'est la bonne nouvelle. C'est la nouvelle de la promesse, l'espérance de l'immortalité, la promesse de la vie éternelle. C'est ça la résurrection du Christ. Et les chrétiens, toutes les fêtes chrétiennes pratiquement, Noël et Pâques les deux plus importantes, la Toussaint aussi, sont des phagocytages de fêtes anciennes. Pour Pâques, tout le monde le sait, c'est Pessah. Pessah, c'est le passage, c'est la sortie d'Égypte. Alors c'est très intéressant parce que le passage, la sortie d'Égypte, pour les Juifs qui étaient en esclavage en Égypte, c'est un passage vers la liberté, vers la vie. Et Pâques, pour les chrétiens, c'est aussi un passage. C'est un passage de la mort vers la vie. Donc Pessah, donc phagocyté. Alors les chrétiens.
Il y a une différence parce que chez les juifs, c'est un passage vers l'émancipation et vers la terre promise, qui est une promesse sur terre, qui est la promesse d'un territoire. Alors que chez les catholiques, c'est la promesse de la résurrection, de la vie après la mort.
Bien sûr, c'est pas exactement le même passage, mais il y a quand même cette idée de passage dans les deux religions, passage vers la liberté pour les juifs et vers la terre promise. Mais d'une certaine manière, le paradis, c'est aussi une terre promise. Même si elle est virtuelle, c'est une terre promise. Et c'est la vie aussi, et c'est la liberté, c'est la vraie liberté pour les croyants. Et donc, très intéressant, toutes les fêtes chrétiennes importantes sont des phagocytages, comme les coucous. On dit, hein, vous savez, l'oiseau, on dit qu'il laisse les autres espèces d'oiseaux faire leur nid, et puis il pique le nid des autres. Ben, l'Église a piqué les fêtes païennes ou les fêtes des autres religions, en l'occurrence du judaïsme. Par exemple, Noël, c'était Sol Invictus, c'était la fête du soleil non vaincue. C'était le moment où les jours rallongent et les Romains fêtaient ça avec des plantes qui étaient des plantes vivaces. C'était un symbole de résurrection, c'était un symbole de vie. Le sapin, beaucoup plus tard, mais c'est une plante vivace. Il perd pas ses feuilles, il jaunit pas le sapin. Et de la même chose pour Pâques, on a phagocyté, les chrétiens ont phagocyté Pessa, la fête juive, parce que ça leur permettait, eh bien, de récupérer, en quelque sorte, les païens ou les autres religions et de les emmener vers le christianisme. Et c'est évidemment la fête la plus importante puisque la bonne nouvelle, Euangelion, évangile, encore une fois, c'est l'essentiel du message christique, c'est l'espérance de la vie éternelle.
Est-ce que les philosophes sont allés piocher dans la Bible, et notamment dans Pâques, des éléments, des concepts ou matières à réflexion?
Alors, moi, pardon de me citer moi-même, c'est absurde, mais j'ai écrit à la demande du pape Benoît XVI un livre avec le cardinal Ravasi, qui est son ministre de la Culture, qui l'est toujours d'ailleurs aujourd'hui, un livre sur la signification du message de Jésus pour les non-croyants. Vous savez, Benoît XVI avait ouvert le dialogue interreligieux, mais aussi le dialogue avec les juifs, avec les musulmans, dialogue interreligieux, mais aussi avec les athées. Ça s'appelait le parvis des gentils. Et il m'avait, c'est un grand honneur pour moi.
C'est un très beau titre, le parvis des gentils.
Parvis des gentils. Les gentils, donc les non-croyants, en l'occurrence. Et il m'avait choisi comme interlocuteur athée, donc comme gentil, avec son ministre de la Culture, cardinal Ravasi. Et donc, nous avons travaillé pendant un an, le livre est
pas... Excusez-moi, mais gentil est directement lié au fait d'être athée, dans l'étymologie?
Les gentils, c'est d'une manière générale ceux qui sont hors de la communauté religieuse, qu'elle soit d'ailleurs juive ou chrétienne. Hein, les goyes.
D'accord, mais
On les appelle les gentils. Goy, gentil, c'est pareil.
D'accord.
Et les gentils, donc parvis des gentils, ça veut dire ouverture à ceux qui ne font pas partie de la communauté chrétienne, et donc, en l'occurrence, après le dialogue interreligieux, le dialogue avec les athées.
C'est mieux que mécréant, gentil.
Ah bah oui, c'est plus gentil.
Alors je vous interromps, mais il y a tellement de choses à
interroger. Non, mais c'est passionnant, parce que on a écrit, à la demande de Benoît XVI ensemble, un livre donc, qui est paru en italien et en français en même temps, le cardinal et le philosophe, ça s'appelle « Sur la signification du message de Jésus pour les non-croyants ». Et notamment la signification des fêtes chrétiennes. Qu'est-ce que c'est joyeuse Pâques? Pourquoi on dit joyeuse? Voilà, c'est ça aussi. Et donc là, on s'est interrogé tous les deux, sur la signification.
Pourquoi on dit joyeuse alors?
Ben justement parce que c'est la promesse de la vie éternelle, c'est ça la joie. C'est la vraie joie. Et d'une certaine manière, c'est ce que dit mon ami... Denis Moreau, qui a écrit un livre sur les voies du salut, lui qui est très chrétien, qui est un philosophe chrétien, et dit voilà, pour les chrétiens, l'espérance de la vie éternelle, l'espérance de la vie pour toujours, la mort, ça s'incarne ici et maintenant. C'est pas simplement une espérance pour plus tard, c'est pas simplement une joie pour plus tard, mais la joie est ici et maintenant. Et donc, joyeuse Pâques, c'est la joie de l'espérance qui s'incarne ici et maintenant, puisque d'ores et déjà, dans le présent, je sais que je vais retrouver par après ce que j'ai aimé en cette vie. Voilà pourquoi joyeuse Pâques.
Vous avez...
et agneau de Dieu, donc c'est Abraham, évidemment, et Jésus est l'agneau de Dieu. Il se sacrifie comme Abraham va sacrifier l'agneau, mais il se sacrifie pour enlever le péché des humains, des mortels, du monde.
Quel est le philosophe qui a, dans l'histoire de la philosophie occidentale, repris le plus à son compte ce qu'il y avait dans l'histoire du Christ et dans le christianisme?
Philosophe athée, vous voulez dire?
Athée ou croyant?
Ah ben, parmi les croyants, c'est évidemment Pascal, bien sûr, c'est le plus grand penseur. En plus, Pascal est une merveille, c'est à la fois un philosophe écrivain, c'est un penseur.
Vous nous rappelez son pari?
Alors le pari, alors moi j'ai toujours trouvé que c'était, comment dire, que c'est vraiment sophistique, mais enfin pour les croyants et pour, enfin c'est très, oui, sophistique, mais c'est un magnifique sophisme. Le pari de Pascal, c'est l'idée que voilà, si vous êtes athée, vous êtes sûr de mourir. La mort gagne. Bon, la mort gagne contre la vie. Donc, on a intérêt à parier sur l'immortalité, sur Pâques, hein, sur le message du Christ, sur l'espérance de l'immortalité, puisque de toute façon, on n'a rien à perdre à parier sur cette immortalité. Ça n'a jamais convaincu personne.
Ce sera le mot de la fin, cher Luc Ferry.
C'est beau, c'est un merveilleux sophisme, mais comme toujours chez Pascal. Oui, c'est le plus grand penseur chrétien à mes yeux. Vous avez saint Thomas d'Aquin, vous avez
Il y en a plein d'autres, mais vous y reviendrez.
Mais Pascal, c'est quand même le plus laïque d'une certaine manière, parce que c'est pas un prêtre.
Nous allons nous quitter, mon cher Luc, avec une œuvre tellement connue qu'on hésite à la passer sur Radio Classique, mais en ce 1er avril, il nous a semblé que c'était le moment ou jamais. À lundi prochain.
einem Bächlein Hände, da schoss in Flor ein. Die launische Forelle vorüber wie ein Pfeil. Ich stand an dem Gestade und sah in süßer Ruh des muntern Fischleins Bade im klaren Bächlein zu. Des muntern Fischleins Bade